franceinter.fr.
Les ondes gravitationnelles reviennent à la une de la science. Elles vont révolutionner l'astronomie et la cosmologie. On vous l'a dit, on vous le redit depuis l'annonce de leur détection il y a maintenant 10 jours. Une première publication tente aujourd'hui de préciser le phénomène céleste qui a engendré ces ondes, la naissance de 2 trous noirs jumeaux à partir d'une seule étoile. C'est une première étude, mais beaucoup d'autres vont suivre. Aurélien Barraud, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie, en direct depuis Grenoble, et puis dans ce studio avec nous, Philippe Hénarejos pour le magazine Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on pense avoir découvert justement avec Abraham Loeb, qui est à Harvard et qui a scruté donc les données de LIGO, le détecteur d'ondes gravitationnelles américain, Philippe?
Alors, ce sur quoi il se pose pour écrire son papier, qui est assez prospectif, c'est la détection d'une petite bouffée de rayons gamma par un satellite qui s'appelle Fermi et qui est en orbite autour de la Terre. Alors, je dois dire tout de suite qu'il faut quand même faire attention, parce que ce satellite a effectivement détecté quelques rayons gamma au moment de l'onde gravitationnelle, au moment où celle-ci a été détectée par LIGO. Mais il y a un autre satellite qui s'appelle Integral, qui a des détecteurs 10 fois plus sensibles dans le même domaine de longueur d'onde rayon gamma, qui était mieux pointé vers la source a priori et qui n'a absolument rien vu. Et j'ajoute que ces petits sursauts sur Fermi arrivent quasi quotidiennement. Donc je soupçonne un petit peu Abraham Loeb quand même d'être comme un surfeur qui voit une belle vague arriver, et là Dieu sait si elle était belle puisqu'elle a fait bouger l'espace-temps autour de nous, pour surfer un petit peu et pour faire un peu parler de Harvard qui est son université. Mais ceci dit, ce qu'il dit, de manière prospective, est très intéressant parce que, effectivement, on doit attendre, on doit chercher même des contreparties électromagnétiques, c'est-à-dire des photons, qu'ils soient gamma, visibles ou infrarouges, de ces ondes gravitationnelles, et c'est ce à quoi les astronomes vont s'employer. Et par ces observations croisées, on espère avoir plus d'informations sur les corps célestes, sur leurs conditions de formation, etc. Enfin, on espère faire des découvertes.
Axel.
Aurélien Barraud, alors un chercheur un peu qui s'est précipité, mais tout le monde est prêt là aujourd'hui à faire des nouvelles découvertes.
Oui, mais je crois effectivement qu'il faut demeurer prudent, c'est-à-dire qu'en effet, je partage l'analyse, au moins dans ses grands traits. La coïncidence entre les deux événements est très hypothétique et pour l'instant peut-être tout à fait remise en cause. Mais ce qui se signe finalement ici, c'est l'ouverture d'une nouvelle fenêtre sur l'univers. C'est-à-dire qu'on est en train non seulement de sonder notre environnement avec les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire avec la lumière, ce dont on a bien l'habitude et qui sont des petites ondes qui se déplacent dans l'espace, mais maintenant, on complète cette observation avec l'étude d'ondes d'espace lui-même. C'est ça que sont les ondes gravitationnelles, ce sont des petits mouvements de l'espace lui-même. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en croisant ces informations, on peut en effet vraisemblablement découvrir des nouveaux objets dont l'existence même était jusqu'alors hypothétique.
Alors cette étoile qui donne naissance à 2 trous noirs, Aurélien Barraud, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas jusqu'alors ?
Alors d'abord, c'est loin d'être avéré, hein. C'est une hypothèse intéressante. Et effectivement, c'est quelque chose d'un peu exotique, mais qui peut se comprendre, parce que si l'étoile est extrêmement massive, disons au-delà de 100 fois la masse du Soleil, et qu'elle tourne très rapidement sur elle-même, ce qui est tout à fait possible, alors lors de son implosion, lors de son effondrement sur elle-même, elle peut donner naissance non pas à 1 trou noir, mais à 2 trous noirs. Et ça, c'est ce dont effectivement a besoin Abraham Loeb, parce que il faut que ces 2 trous noirs se trouvent dans un environnement où il y a du gaz, où il y a de la matière, pour donner naissance au petit flash de rayon gamma qui a peut-être été observé. Donc ce qui est remarquable, c'est moins le modèle lui-même qui est effectivement sujet à caution, que le fait qu'on arrive aujourd'hui à un niveau de précision sur la description de l'environnement direct de trous noirs qui se trouve quand même pourtant à environ 1 milliard d'années-lumière de la Terre, qui est tout à fait remarquable.
On est quand même à un moment particulier là où on a la certitude qu'on va trouver des choses dans le futur proche sans savoir précisément ce qu'on cherche avec ces ondes gravitationnelles.
Voilà, moi c'est ça qui me paraît essentiel. En fait, c'est que c'est une grande continuation de ce geste d'humilité qui me semble être presque la définition de la démarche scientifique et en particulier de la démarche astronomique. Dès lors qu'on a été capable de sonder le cosmos avec de nouvelles sondes, on a décelé des objets qui étaient inattendus. Et finalement, cette quête de l'inattendu, c'est peut-être ce qu'il y a à la fois de plus noble et de plus excitant. Bien sûr, on va raffiner notre compréhension de systèmes connus, mais on va aussi sans aucun doute observer de nouveaux astres, et ça, c'est certainement ce qui est finalement le plus essentiel. La théorie de la relativité générale, on la connaissait bien, et en tant que vérification de celle-ci, la découverte est relativement anecdotique. Ce qui est génial, c'est que maintenant, on va pouvoir l'utiliser. On va pouvoir l'utiliser pour découvrir de nouveaux objets, et peut-être même pour glaner des informations sur l'univers à grande échelle.
Philippe Hénarejo, est-ce qu'on sait si LIGO a détecté d'autres phénomènes gravitationnels ?
Alors, on ne le sait pas, mais on le suppose fortement.
Oh oui, hein.
Franchement, je vous rappelle le contexte. L'instrument est opérationnel depuis le 12 septembre et dès le 14, ça fait tilt. Donc, ça veut dire, statistiquement, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Et on sait déjà que il y a eu un événement qui a été vu le 12 octobre, qui semble être fait par deux trous noirs qui sont plus petits, mais plus loin. Donc, si vous voulez, le niveau de mesure est moins bon, donc ils ne le prennent pas vraiment en compte, mais il y a déjà quelque chose. Il y a vraisemblablement eu une autre alerte aussi en décembre. Tout ça, on le saura très bientôt. D'ici moins de 3 mois, les 4 mois d'observation seront dépouillés et on aura l'analyse complète. Et je suis prêt à prendre les paris qu'il y aura plusieurs événements de ce type dans les enregistrements du détecteur.
Et on parle d'événements, on parle de quoi exactement ? Quels sont les événements qui seraient intéressants d'observer ?
Alors, ce sont toujours le même type d'événements, c'est-à-dire ce sont deux objets compacts et massifs.
Donc les trous noirs,
des trous noirs, ou des étoiles à neutrons, ou même des naines blanches, mais des naines blanches, c'est un peu trop...
Qu'est-ce que c'est une naine blanche, Philippe ?
C'est un cadavre d'étoile, c'est une étoile comme le soleil finira en naine blanche quand il aura expulsé toute son enveloppe, il ne restera que le cœur, et c'est un astre assez compact, mais quand même beaucoup moins compact qu'une étoile à neutrons, ou un trou noir. Donc, on va certainement voir des étoiles à neutrons qui se tournent autour les unes des autres, vous aurez peut-être des étoiles à neutrons en orbite autour de trous noirs, qui vont fusionner, des trous noirs entre eux, comme ça a déjà été le cas. Peut-être on va trouver des trous noirs intermédiaires, beaucoup plus gros que ce qu'on a vu. Déjà, cela pose problème, parce qu'on ne sait pas comment on forme des trous noirs de 30 masses solaires avec une ou deux étoiles. On ne sait pas très bien. C'est possible, il y a des modèles qui le déduisent, mais on est en train d'étudier tout ça. Peut-être on va trouver d'autres corps célestes et surtout, on aura un échantillonnage de cette population. Comme on parle de plusieurs événements, on va voir combien ils sont, à quels endroits ils se trouvent, parce que finalement, quand Virgo marchera à la fin de l'année, on saura pointer dans une direction beaucoup plus précise du ciel.
C'est excitant, Aurélien Barraud, hein, cette astronomie gravitationnelle là qui s'annonce. Hein.
Oui, c'est très beau parce que c'est un signal d'une extrême propreté. C'est-à-dire que les ondes électromagnétiques, la lumière et sa généralisation interagissent avec l'environnement direct de la source et peuvent subir un certain nombre de phénomènes durant la propagation dans l'espace interstellaire, voire intergalactique. Au contraire, les ondes de gravité n'interagissent pratiquement pas du tout avec la matière qui se trouve entre le lieu d'émission et le lieu de détection. Donc, quelque part, on réalise un peu du projet de Platon. Voilà, c'est-à-dire qu'on regarde l'univers avec des yeux de géomètre, on voit moins les objets eux-mêmes que les petites vibrations de l'espace, mais ces petites vibrations de l'espace nous disent quelque chose des objets et nous le disent sans aucun phénomène d'altération. Donc c'est une sonde qui est très puissante et qui est très immaculée en quelque sorte pour tenter de sonder à la fois la structure fine des objets, et moi je crois qu'on n'avait jamais vu des trous noirs avec de manière aussi convaincante qu'on l'a fait là récemment avec LIGO, mais aussi peut-être pour sonder la structure de l'univers à plus grande échelle et comprendre mieux son phénomène d'accélération lors de l'expansion cosmologique.
Allez, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble, Aurélien Barraud, puisque vous serez l'invité de La Tête au Carré le mardi 8 mars prochain autour de votre prochain ouvrage. Merci beaucoup à vous. Merci Philippe Hénarejos.
Merci, à bientôt.
Et puis on poursuit la découverte dans les pages de Ciel et Espace. Merci Axel.
Merci Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les oiseaux qui voyagent le plus seraient également les plus intelligents. L'université d'Oxford révèle que les oiseaux migrateurs continuent de générer de nouveaux neurones au cours de leur voyage. Chez les tourterelles, qui voyagent plutôt seuls et de nuit, c'est par exemple la région de l'hippocampe associée à la navigation qui se développe. Cette étude est ambitieuse puisqu'elle montre l'incroyable adaptabilité des oiseaux. Toutefois, n'oublions pas que la quantité de neurones n'est pas toujours proportionnelle à l'intelligence. Les ondes de choc soignent les troubles de l'érection et rien de gravitationnel là-dedans. On ne sait pas encore exactement pourquoi et comment, mais cette thérapie est efficace pendant plus d'une année. Le principe est donc d'appliquer de faibles ondes sur les tissus érectiles du pénis pour stimuler la prolifération de nouveaux vaisseaux sanguins. La méthode imaginé dans les années 2000 a fait son chemin jusqu'à la Société Européenne de Médecine Sexuelle qui a mené ses tests. Selon son président, les ondes de choc seraient la meilleure alternative connue au Viagra. Et puis pour finir, la nouvelle vidéo du Boston Dynamics qui nous fait voyager dans le futur. L'année dernière, cette entreprise avait déjà fait le buzz avec son chien robot ultra rapide et agile. Aujourd'hui, c'est au tour d'Atlanta, un droïde de taille humaine qui marche très facilement sur des terrains accidentés. Son système de stabilisation hydraulique lui permet d'être solidement équilibré. Et vous pouvez voir ce droïde soulever des cartons en mouvement ou encore marcher sans glisser dans la neige avec la vidéo qu'on vous a postée sur Twitter et sur le Facebook de La Tête au Carré.